podcast. Nos cerveaux excités à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avec le plaisir de retrouver dans cette émission aujourd'hui Brigitte Giraud. Brigitte Giraud qu'on a reçue de livre en livre et qui là nous revient avec un ouvrage qui est paru chez Flammarion. Un très très beau livre qui s'intitule « Vivre vite ». Donc c'est un plaisir de la retrouver. Et puis on va retrouver également Gérard Guégan pour sa chronique. Alors c'est tout dire quand même. Et en plus pour cette rentrée, il nous a sélectionné trois ouvrages qui vont nous emmener au travers des États-Unis et également de la Russie. Donc vraiment, c'est un beau programme aujourd'hui dans Idéaux et débats. On retrouve tout de suite donc Brigitte Giraud pour « Vivre vite ». Paru aux éditions Flammarion. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir, c'est un vrai plaisir de retrouver Brigitte Giraud pour un nouveau livre qui est paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire et qui s'intitule « Vivre vite ». Alors Brigitte Giraud, c'est une habituée de cette émission et c'est toujours avec autant de plaisir qu'on la retrouve de livre en livre autant que de possible. Et là, « Vivre vite », on l'évoquait avant de commencer cet entretien, ça a été un de mes coups de cœur de cet été. Je l'ai lu, j'ai tout de suite réagi et j'ai été très très émue par ce livre. Alors « Vivre vite », on va parler d'emblée, Brigitte Giraud, de ce titre, parce qu'il est évoqué dans le livre, il y est question de Lou Reed, et c'est une citation de Lou Reed, et on va la compléter, cette citation.
Oui, alors au départ, « Vivre vite » a été d'abord utilisé par James Dean, « Vivre vite, mourir jeune », et récupéré par Lou Reed et par tout un tas d'autres choses, mais surtout par Lou Reed. C'est une phrase que j'ai trouvée dans le dernier livre qu'était en train de lire Claude au moment où il a eu cet accident de moto auquel il a succombé, ce qui est l'objet aussi du livre. Et cette phrase récupérée par Lou Reed était suivie de tout un tas d'autres choses, jouer au méchant, tout saloper. C'est cette histoire de rock'n'roll attitude qui évidemment moi, m'intéresse beaucoup et intéressait beaucoup Claude puisqu'il était rock critique. pour un journal de la presse écrite, et puis il était également discothécaire. Donc cette idée de vivre vite, c'est quand même ce qui a traversé le XXe siècle aussi, et cette vitesse rappelle tout de suite la vitesse des véhicules, des motos, des voitures, et depuis l'avènement du moteur à explosion.
Oui, tout à fait, il est question aussi de carburateur, mais on ne dévoilera pas tout. Alors, avant de parler du livre en lui-même, j'aimerais, si vous voulez bien, Brigitte Giraud, qu'on évoque la phrase que vous avez mise en exergue, qui est une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Patrick Autréot, et je lis la phrase « Écrire, c'est être mené à ce lieu qu'on voudrait éviter ».
Moi aussi, j'aime beaucoup Patrick Autréot, je le lis de livre en livre, et je trouve qu'il creuse quelque chose d'extrêmement... primordial pour nous autres humains qui vivons, qui souffrons, qui cherchons des issues pour se soigner ou pour guérir de certaines choses. C'est être mené à ce lieu qu'on voudrait éviter. L'écriture m'intéresse, moi, pour cela, c'est-à-dire que si je savais déjà tout ce que je vais... découvrir pendant le temps d'écriture d'un livre, je crois que je n'écrirai pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller là où je sais que je dois aller un jour, parce qu'il faut que j'explicite quelque chose ou que je mène l'enquête sur quelque chose. En l'occurrence, c'était cet accident de moto inexpliqué. Et pour autant, évidemment, on évite d'y aller parce que il faut prendre le temps de se poser, de faire un point et de faire ce que j'appelle le tour du propriétaire. Mmh. Puisque cet accident a un lien avec une maison à rénover qu'on venait d'acheter, et au moment de quitter cette maison, parce que les promoteurs sont en train de mettre la main sur le quartier, je me rends compte que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident.
Alors la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident, effectivement, on va être amené à en parler. C'est vrai que vous commencez à ce moment précis où cette maison va être rasée pour en faire une route, avec donc des constructions qui vont défigurer le paysage, et la parenthèse se fermant, c'est le moment de l'ouvrir. De revenir sur l'histoire de cette maison où Claude n'aura jamais habité. Mais quand vous évoquiez le fait que c'était la rock'n'roll attitude, que c'était l'attitude du XXe siècle, ce roman a aussi cette dimension intéressante d'aller étudier cette période très particulière. Parce que quand on parle de la maison, qui est une maison qui a été achetée quelques jours avant la mort de Claude, l'accession à la propriété... Si ça peut paraître banal de nos jours, à l'époque, ça n'était pas, et ça n'était pas pour vous qui étiez originaire de la banlieue de Lyon, qui aviez envie de revenir sur le centre, de mener une vie heureuse de musique, de camarades, de copains, de jardins, d'enfants, enfin cet idéal de vie qui était celui de l'époque et qui avait envie de se défaire de cette précarité qui était le fait d'être locataire et de pouvoir être viré à n'importe quel moment. Donc d'abord, il y a ce côté sociologique presque, enfin c'est l'importance de ce déterminisme que vous aviez pu connaître et qui a conduit à cet endroit-là, à ce moment-là.
C'est très juste, c'est exactement cela. C'est la raison pour laquelle, pour écrire ce livre, qui est en sorte une espèce d'arbre généalogique de ce qui a conduit à l'accident, en remontant 20 ans en arrière et même davantage, pour essayer de comprendre l'enchaînement des choses, l'enchaînement des choix de vie qui conduisent à cette chose inéluctable, mais sans que personne soit responsable et sans qu'évidemment on l'ait vu venir. Je me suis rendu compte en écrivant de façon assez minutieuse et en ne négligeant aucun des détails que le premier mouvement, c'était en effet quitter la banlieue dans laquelle on vivait, près de Lyon, pour nous installer dans le centre-ville, là où est le cœur battant, où était le cœur battant de la ville à l'époque. C'est pour ça, ce vivre vite, c'était aussi ça. La rock'n'roll attitude, c'était aussi être là où il y a des concerts, des cinémas, des cafés, où il y a une énergie, où il y a de la vie, où ce livre ne parle que de ça en fait, que de la vie et de ces palpitations-là. Et puis, comme Claude était également musicien, lui, il avait très envie d'un endroit, d'un petit espace pour enregistrer la musique qu'il composait. Moi, petit à petit, j'avais envie aussi d'avoir un bureau, un peu d'espace pour travailler. Et c'est vrai qu'après avoir été locataire, après avoir été... Je parle aussi de l'origine de Claude, qui lui venait d'Algérie, qui a connu l'exil. Il y avait dans nos deux existences, pour des raisons très différentes, une forme de précarité par rapport aux lieux dans lesquels on vivait. Et c'est vrai que l'acquisition de cette maison, bon, c'était une vieille maison à rénover, ça nous électrisait vraiment parce qu'il y avait l'idée d'une construction. De construire un lieu après, en fait, à son idée, à son image, à deux, pour un projet qui pourrait inviter surtout. L'idée d'une maison, c'est aussi ça, c'est aussi l'idée de la partager avec des amis, avec ceux qui passent, qui peuvent y passer des soirées et qu'on peut loger.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
Vite, donc paru chez Flammarion, il y a aussi ces éléments qui nous constituent et qui font qu'on est amené à faire tel choix plutôt qu'un autre. Vous évoquez l'origine de Claude, et c'est déterminant aussi parce qu'il faut qu'il y ait une maison d'où il puisse voir d'assez haut, comme les balcons quand il était en Algérie. C'est un petit détail, mais c'est ce qui fait toute la subtilité et la force du livre. C'est ce genre de choses. Et puis vous, de votre côté, il y a cette quête pour avoir l'appartement, la maison, dans un moment, dans une époque où commence la spéculation immobilière et où acheter, trouver un lieu devient une espèce de jeu qui rend un peu fou.
Oui, alors ça, c'est je sais que j'appelle ça, moi, ma folie immobilière, mais je pense qu'on est nombreux ou nombreuses à partager cette espèce de quête sans fin du lieu idéal. Qui peut être une quête qui dure toute la vie d'ailleurs. Et je me disais qu'il y avait un paradoxe dans cette idée d'une quête de l'endroit, de l'abri, qui est quand même censé être un lieu qui vous protège, qui vous met d'abord à l'abri. Or, ce lieu, pour plein de raisons que j'évoque dans le livre, c'est finalement un lieu qui nous a exposés au danger. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte vraiment pendant le temps d'écriture. Après, la quête de l'idéal ou la quête de la perfection est quelque chose qui rend extrêmement vivant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me rend extrêmement vivant, le fait d'être en recherche de quelque chose qui serait plus, mieux exposé, plus grand, plus moins cher. Enfin, voilà, qui a absolument toutes les conditions. Mais je crois que ça nous fait courir. Ces histoires de lieux, j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de personnes et je crois que beaucoup de personnes ont ça en commun.
Alors, on va parler, Brigitte Giraud, de la manière dont le livre est construit et du fait que, justement, vous avez fait ce choix littéraire de partir de tous les « si ». Voilà. L'importance du « si ». S'il n'y avait pas eu telle chose, s'il n'y avait pas ceci, vous reconstituez de manière extrêmement, j'allais dire, vous faites presque une dissection des faits des derniers jours précédant le décès de Claude, pour voir chaque embranchement où quelque chose s'est produit qui a fait qu'on est arrivé de manière inéluctable à cet accident et à sa mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous. Quand il nous arrive quelque chose, on se dit, mais si j'avais fait ça, voilà. Et vous, vous allez très très loin dans les si.
Oui, je vais très très loin parce que l'écriture d'un livre permet d'aller très loin.
Et parce que c'est un roman aussi.
Et puis parce que c'est un roman qui émet des hypothèses. Alors tout ce que je raconte est vrai. Évidemment, c'est le récit d'un accident mortel et c'est terrible. Mais toutes les hypothèses que j'émets en essayant de reconstituer ces si et toutes les situations qui ont eu lieu avant l'accident partent de la réalité. Mais il s'agit d'un accident qui n'est pas élucidé. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport de police qui ne dit quasiment rien. Il y a quatre lignes, il y a l'identité d'une personne, il y a vraiment beaucoup plus de questions que de réponses. Et quand on ne sait pas, et quand il n'y a pas de sens à ce que vous êtes en train de vivre, votre cerveau n'en finit pas de galoper et vous êtes obligé, finalement, de mener une enquête sur votre vie intime, sur la vie collective, sur la vie plus historique, etc. C'est un livre qui est vraiment à la croisée de l'intime et du collectif pour essayer de trouver du sens, même si je sais très bien que du sens, il n'y en a pas. Et finalement, ce livre pose indirectement la question du destin. C'est-à-dire que tous les embranchements, comme vous le disiez, c'est pour ça que je parle d'arbre généalogique. Il y a deux artistes suisses que j'aime citer, qui s'appellent Fischli et Weiss, qui ont mis en scène dans leurs ateliers des installations qui sont accessibles dans des petites vidéos sur YouTube, qui sont assez passionnantes, qui s'appellent « Le cours des choses » d'Erloïf et d'Erding. Et en prenant des objets de leur atelier, ils finissent par obtenir un effet domino, c'est-à-dire une bille qui roule dans une travée qui va déclencher une mécanique, qui va déclencher un écoulement d'eau, etc. etc. Et j'avais en tête ce dispositif de Fischli pour la construction du livre, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les semaines et les mois qui ont précédé l'accident ont été faites de dysfonctionnements, de hasards, de coïncidences. Rien ne s'est passé comme ça aurait dû se passer. Il y a eu des contretemps, il y a eu des inversions, il y a eu des détournements. C'est totalement sidérant. Mais comme je le dis aussi au début du livre, quand notre vie se déroule normalement, on se pose pas la question de savoir pourquoi le train était à l'heure et pourquoi il ne s'est rien passé.
Joseph walked on and on the sunset, went down and down coldness, cooled their desire and dawn said, let's build a fire. The sun dressed the trees in green and Joe said, dawn, I feel like a king and dawn. Golden hair.
lands the sunset. Behind his eyes and Joe said, is this desire? Is this desire?
Comme vous l'évoquiez, Brigitte Giraud, c'est vrai que vivre vite, ça n'est pas qu'une histoire individuelle et singulière, mais c'est aussi un renvoi au collectif. Parce que je prendrais pour exemple, on a déjà évoqué le côté rock'n'roll attitude et la frénésie immobilière, mais à un moment, vous posez la question d'un coup de téléphone que vous n'avez pas donné. Alors, bien sûr, c'est quelque chose de personnel, mais pas que, parce que, comme vous l'évoquez, on est à une époque où commence à apparaître la notion de nouveau père, où on s'interroge sur les rôles de chacun, où on se pose la question de savoir est-ce qu'on doit appeler ou pas appeler, est-ce que c'est trop intrusif ou pas. Et donc, c'est en ça que ça nous parle aussi à nous. C'est ce détail singulier de votre vie la veille de l'accident, eh bien... il est déterminé en partie par l'époque aussi.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que j'étais à Paris la veille au soir, le 21 juin. J'aurais pas dû être à Paris ce jour-là, j'avais décalé mon aller-retour à Paris chez mon éditeur parce que j'avais fait des pieds et des mains auprès du notaire pour avoir les clés à l'avance, nous n'aurions pas dû avoir les clés, etc. etc. Tout était donc déréglé, comme je le disais tout à l'heure. Et là, j'étais chez une amie chez qui j'allais dormir et nous étions en pleine régression de copines qui se retrouvent en train de
boire
du martini, puis elle me racontait sa nouvelle histoire d'amour, etc. Donc c'était absolument passionnant. Et à ce moment-là, on était en 1999, il n'y avait pas de... Enfin, moi, je n'avais pas de téléphone portable, c'était vraiment le tout début. Donc je ne pouvais pas passer ce petit SMS anodin qui n'engage pas le corps et la voix et qui ne fait pas irruption et qui ne fait pas effraction dans la soirée de l'autre. Et c'est vrai que pour téléphoner, si on se souvient bien de cette époque, et c'est encore valable aujourd'hui, hein, quand on doit passer un coup de fil, il faut qu'on se mette à la place de l'autre pour supposer quel est le bon moment pour ne pas déranger l'autre, pas être trop long, pas trop intrusif. Et ce moment-là était en effet l'avènement des nouveaux pères. Quasiment toutes les unes de journaux féminins, de psychologie et même de presse quotidienne extrêmement sérieuse publiaient beaucoup d'articles sur ces nouveaux pères qui étaient censés accomplir tout un tas de choses nouvelles auprès de leurs enfants, de leurs nourrissons et de leurs femmes enceintes, ce qui était évidemment une très bonne chose. Mais ce qui voulait dire aussi que les femmes... devait apprendre à partager, devait laisser la place, ce qui n'est pas forcément si simple que cela. Donc cet aspect-là fait partie des raisons qui font que dans la soirée, ce fameux coup de fil que je devais passer n'a pas été passé. Puis il y a plein d'autres raisons que j'explique aussi par rapport à ce que j'appelle moi et ce qu'a appelé la psychanalyste Dominique Guillaumard la folie des mères. Voilà. Parce que quand on passe un coup de fil avec une autre personne présente dans la pièce, hein, chez mon ami avait un studio, c'est difficile parce qu'on sait qu'on donne une certaine image de soi. Donc voilà, c'était une façon aussi de ne pas montrer à l'autre que, à peine séparée de mon fils et de mon compagnon depuis quelques heures, il fallait déjà que je téléphone pour dire quelque chose. Enfin, voilà, donc ça c'est sans fin. Et quand on regarde à la loupe, si je peux dire, c'est extrêmement passionnant. Et ça dit beaucoup de choses sur cette époque.
Tout à fait, parce que le regard extérieur, le regard sociétal est extrêmement présent en fait dans Vivre Vite. Et c'est ça aussi qui, moi, m'a fascinée. Un autre élément aussi qui est intéressant, Brigitte Giraud, dans Vivre Vite, c'est que, paru chez Flammarion, c'est que, j'allais dire, j'allais être grossière en disant, on nous bassine avec les étapes du deuil. Et je suis ravie que vous ayez fait ce livre qui met en évidence que, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi.
Oui, tous les livres de développement personnel et autres émissions, certaines émissions de psychologie un peu rapide vous diront que le deuil est censé se faire en 2 ans et qu'il y a les différentes étapes, le déni, la colère, jusqu'à la fameuse acceptation et presque même la réjouissance finale, hein, si on regarde de près. Et évidemment, ce livre écrit plus de 20 ans après et la preuve en fait du contraire. Alors il y a différentes formes de deuil. Là, c'est évidemment l'homme de ma vie qui m'est arraché alors que j'ai 35 ans et lui 40 et qu'on a un enfant, etc. Donc évidemment que la vie totale explose. Et c'est vrai que le livre s'ouvre sur un temps, sur cette maison que nous venions d'acheter, dans laquelle j'ai emménagé seule avec mon fils, puisque l'accident a eu lieu 3 jours avant l'emménagement. Et au début du texte, avant les différents « si » qui vont se suivre, je mets en scène mon rapport au lieu, c'est-à-dire ce lieu que j'avais tellement espéré, que j'étais tellement surexcitée de pouvoir enfin habiter pour ce qu'on allait en faire, la façon dont on allait transformer le jardin, abattre des cloisons, enfin dont on allait mettre nos blocs de travail et commencer à faire du ciment, etc. Et je mets en scène finalement ce lieu que j'habite seule et dont j'ai l'impression que chacun des éléments, chacun des matériaux, la pierre, le bois, le gravier du jardin, tout devient une puissance ennemie. Donc le début du livre est vraiment un rappel de ce combat que j'ai littéralement mené avec une colère et une souffrance en fait très 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 intense contre tous ces éléments, et puis je montre aussi comment avec le temps, mais dans un temps long, je finis par au lieu de me battre contre les murs, je vais finir petit à petit par les repeindre, par accepter d'harmoniser les couleurs et de faire de cette maison un endroit qui soit moins hostile. Mais je montre en effet qu'il a fallu un temps infini.
Alors, Vivre Vite, Brigitte Giraud, c'est aussi un très très beau portrait de Claude qui est là tout le temps, qui donne envie d'être connu. Et ça, c'est chouette.
Je me rends compte aujourd'hui parce que des lecteurs me le disent et je n'avais pas ce projet au départ. Mais en écrivant, bien sûr, c'est comme si j'avais passé 2 ou 3 ans avec lui, en sa compagnie, en essayant de le faire apparaître précisément, puisqu'il apparaît dans quasiment toutes les scènes, puisque c'est un livre qui parle de l'amour que j'avais et que j'ai sans doute encore pour lui et de sa disparition. Et puis j'essaye de comprendre aussi ce qui est incompréhensible pour moi, c'est pourquoi il a pris un matin une moto qui n'était pas la sienne, qui appartenait à son beau-frère, qui était stockée dans le garage de cette nouvelle maison un temps très bref, quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il emprunte cette moto dont il savait qu'elle était dangereuse? Et ce qui me fait dire que les êtres qui nous sont les plus proches, y compris votre amoureux avec qui vous vivez de façon très, très, très intense et en harmonie, conserve une part de mystère considérable. Et je trouve que ce mystère est quelque chose auquel j'ai été confrontée pendant l'écriture du livre et que j'ai beaucoup, alors aimé, c'est pas le mot, mais qui m'est apparu comme étant véritablement une part de l'autre qui est inaccessible et qui fait que l'autre demeure désirable dans sa façon d'être inaccessible.
Tout à fait. Ouais.
Et c'est vrai que cette moto, je voulais peut-être juste rajouter qu'il s'agissait d'une 900 Honda CBR Fireblade, qui veut dire lame de feu, construite au Japon à la fin du siècle dernier, au début du 21e siècle, qui avait été construite par un fabuleux ingénieur, Tadao Baba, pour le circuit, en fait, pour la compétition, pour les 8 heures de Suzuka. Et il se trouve que cette moto était interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse, mais réservée à l'exportation, notamment vers l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne. Ce qui fait que le livre est aussi relié à ce que j'appelle la chose libérale, la violence du libéralisme. Et c'était très important pour moi aussi de relier cet accident à l'époque et à notre façon de subir ces choses intolérables face auxquelles on a peu de choix. Thank you.
et puis c'est toujours ce qu'on évoquait tout à l'heure, Brigitte Giraud, c'est la volonté de mettre du sens sur ce qui n'en a pas, et au point d'aller chercher effectivement le détail, la signification du nom de la moto. On essaye de construire avec, de trouver les briques qui pourraient s'emboîter pour faire une route pour avancer. Donc tout est bon dans ces moments-là.
Oui, c'est exactement ça, parce que le nom de la moto, L'âme de feu, c'était au départ le nom du livre et puis on l'a modifié. L'âme de feu, moi j'entends aussi l'âme de fond, ouais. Et je pose la question dans le livre de savoir pourquoi le Japon, qui est à 10 000 km de mon point névralgique d'existence, à Lyon, enfin en France, pourquoi ce pays vient à ce point percuter et faire exploser, couper ma vie en deux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fameux effet domino ou l'effet papillon. Voilà, et tout ça. Et là, c'est extrêmement intéressant à regarder de très près. Oui. Ouais.
Alors, on va laisser découvrir le livre par nos auditeurs. Mais avant de les laisser lire Vivre Vite, qui est donc paru chez Flammarion, j'aimerais qu'on dise un mot, si vous voulez bien, Brigitte Giraud, de la bande-son du livre, parce qu'elle est extrêmement importante aussi. Ça fait partie des si, mais pas que, quoi. Ouais. Elle est présente, les morceaux sont là. Et moi, je sais qu'à la lecture, j'avais les morceaux en tête et je les réentendais et c'est puissant.
Ouais, mais en fait, il s'agit en effet d'un homme qui était musicien, critique musical et qui dirigeait une discothèque municipale à Lyon, dont l'existence était baignée de musique... toute la journée et toutes les soirées. Évidemment, j'étais associée à ça et j'aimais beaucoup ça. On allait beaucoup au concert, on écoutait beaucoup de tout un tas de choses. Quand on parle de musique, il faut savoir que c'est plutôt de la musique pop-rock indépendante. Ça se situe à peu près de cette façon-là. Donc, toute la bande-son des années 90, mais des années précédentes est là aussi, que ce soit Iggy Pop, que ce soit The Clash, que ce soit Talking Heads. Évidemment, Dominica, il y a une scène qui est importante le jour où Claude rentre du travail avec... l'album La Fossette en étant totalement sidéré, aussi parce qu'il avait entendu à la radio l'émission de Bernard Lenoir, wow, et parce qu'il lisait les critiques des autres critiques musicaux qui grâce à qui il a eu envie de devenir qui il était, à savoir Mishka Assayas, Arnaud Vivian, etc. Et donc et Jean-Daniel Beauvallet pour les Inoccupables. Donc c'était une époque qui, d'un point de vue du rock, était extrêmement... très vivifiante et où la place de cette musique était peut-être plus indépendante et peut-être un peu plus underground qu'aujourd'hui.
Et puis pas du même accès, parce qu'il fallait aller acheter les CD, il fallait... Tandis que là, bon, on clique, on a, quoi. Donc il y avait cette idée du nouveau disque qui allait sortir, qu'on allait se procurer chez le disquaire ou qu'on allait chercher à la discothèque. Ouais. Et c'est quand même différent.
Et il fallait apprendre la patience. Oui. On était confronté à la patience, à la frustration, à l'attente et à la rareté. Ce qui est un peu le contraire de la nouvelle génération aujourd'hui. Et à un moment, je parle de ça, je dis que quand on allait dans une bibliothèque ou une discothèque et qu'il fallait emprunter seulement trois objets, il fallait choisir, il fallait pas se tromper, et j'avais l'impression que la rareté nous rendait heureux, oui. Parce que tout avait du prix, presque tout était sacré. Ou quand on commandait un disque en import aux États-Unis ou en Angleterre, on le payait cher, il fallait attendre longtemps avant qu'il arrive. Mais une fois que l'album était arrivé dans votre boîte aux lettres, on était face à cet
c'était
album,
Noël.
On écoutait en boucle pendant des soirs, et on avait une connaissance beaucoup plus profonde. Oui. C'est pour ça que tous ces morceaux sont là. Mais ils sont là de façon, comment dire, naturelle. Ils rythment l'existence, parce que nos vies étaient... chaque situation de la vie était connectée à une chanson, presque toujours.
Mm-hmm. Et ça se ressent aussi à la lecture, parce qu'on est dans cet esprit-là. Et oui, ça évoque des choses. Quand on voulait un disque à la discothèque, qu'il était sorti et qu'il fallait le réserver en espérant qu'il soit ramené à la bonne date, c'était effectivement des moments d'attente et de plaisir aussi, tous ces petits plaisirs qui sont extrêmement présents dans Vivre Vite aussi, les plaisirs du quotidien.
Oui, c'est ça, les plaisirs très, très concrets, que ça concerne la façon de s'habiller, la façon de visiter une maison, la façon d'être en lien avec sa famille. C'est un livre qui parle beaucoup aussi des liens familiaux, et des liens de couple, qui pose la question de la famille, parce qu'évidemment, la famille est certes certaines personnes de ma famille ont un lien très, très direct, enfin indirect, mais direct aussi à l'accident. Et la question qui se pose aussi, c'est de savoir où finit la solidarité et où commence l'ingérence dans une famille, en sachant qu'il n'y a pas de réponse et que c'est à géométrie variable. Mais ça, c'est tout à fait intéressant.
Le rapport mère-fille aussi.
Le rapport mère-fille, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'on appelle sa mère quand on a 35 ans pour lui dire « Maman, j'ai les clés ». Voilà, j'ai l'impression pour autant qu'il y a aussi beaucoup d'ironie, beaucoup de regard sur soi qui est sous cette forme-là également. Parce que écrire un livre 20 ans après autour de cet événement-là, ça permet aussi de se regarder vivre et puis de d'avoir parfois un regard amusé ou agacé.
Oui, c'est une précision que je vais donner, si vous permettez, Brigitte Giraud, à propos de Vivre Vite, c'est que sur une histoire douloureuse et grave, vous faites un roman vivant et léger, mais léger dans le sens positif du terme. Et c'est ce qui fait aussi la force du livre, c'est-à-dire que c'est pas du tout un point de vue victimaire ou dans le pathos. Et c'est ce qui fait que ça parle à chacun.
Ouais, je me suis rendu compte de ça. C'est un livre qui parle de la vie, de comment on espère quelque chose, comment on construit une vie, comment on va tellement vite qu'on oublie que vivre est dangereux, en fait. Comment on s'expose au danger alors qu'on est en pleine énergie. C'est vraiment un livre qui parle de ça, de cette énergie, du projet, qui parle de l'avenir, qui parle de ce qu'on va faire après, qui est sans arrêt en train de regarder vers la ligne d'horizon. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas écrire ce livre avant. Il fallait que soit passé beaucoup de temps, que moi je trouve la bonne distance pour pouvoir rassembler tous ces éléments pour pas avoir le nez sur le guidon, j'allais dire. Bon, c'est une expression malheureuse, mais voilà. Puis il y a des dérives aussi, presque vers la folie. Il y a des moments que je pousse un peu, comme ce moment avec Stephen Zweig, que j'essaye de trouver dans des coupures de presse que j'ai gardées de l'époque. Est-ce qu'il y aurait eu à un moment donné, à l'époque, un événement qui international suffisamment fort et grave qui aurait pu changer la donne? Et je trouve, je l'ignorais, que Stephen King a eu un accident gravissime 3 jours avant Claude, qu'il a été quasiment laissé pour mort, presque amputé, ça a été terrible. Mais finalement, il s'en est remis, et donc je vais assez loin dans ce que donc je dis, mais j'en ai finalement voulu à Stephen King de n'avoir jamais rien fait pour moi. Voilà, parce que quand on cherche du sens là où il n'y en a pas, par moments on frôle un peu quelque chose de...
Et puis le monde a continué après l'éclipse, et les lecteurs découvriront pourquoi j'évoque cette phrase. En tout cas, merci Brigitte Giraud de ce très très beau livre qui s'appelle « Vivre vite » qui est paru chez Flammarion. Et puis, question rituelle dans cette émission, déjà des projets, comment vous voyez la suite ?
Pour l'instant, c'est-à-dire ce livre, je l'ai tellement espéré, je l'ai tellement reporté, il était tellement présent depuis tant d'années que pour l'instant, j'ai pas de suite. Je vais rencontrer, faire pas mal de rencontres en librairie autour de ce livre-là. Et les autres projets sont des projets avec des musiciens. Là, je viens de travailler sur un premier album d'un musicien qui s'appelle Deville, qui sort bientôt. Parce que finalement, c'est aussi au contact des musiciens que je me sens le mieux, ce qui est peut-être pas étonnant.
En tout cas, merci beaucoup. Lisez Vivre Vite, c'est de Brigitte Giraud, c'est chez Flammarion. Et vraiment, je le recommande. Merci beaucoup, Brigitte Giraud, et puis j'espère une prochaine fois.
Merci beaucoup, merci à vous.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go?
It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision me molesta.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow?
Voilà, on va retrouver la chronique de Gérard Guégan. Gérard Guégan qui nous revient donc là avec trois ouvrages qui vont nous mener des États-Unis jusqu'en Russie. On le retrouve tout de suite, c'est Radio Libertaire, c'est 89.4. Toujours pour Radio Libertaire 89.4 MHz, avec le plaisir de retrouver la chronique de Gérard Guégan pour cette première en cette rentrée où tu nous parleras donc de trois ouvrages. On va commencer par le premier qui est le livre de Thierry Clermont qui s'appelle Long Island Baby et qui est paru aux éditions Stock.
Alors évidemment, ce livre a tout pour me plaire, avait tout pour me plaire et a eu tout pour me plaire. Donc j'ai le résultat parce que je l'ai lu. Deux fois d'ailleurs, une première fois puisque les rentrées commencent très tôt fin juillet et une deuxième fois ces jours-ci. C'est un voyage sur une des nombreuses îles de l'État de New York. Il y a les deux rues grandes rivières et puis il y a des îles, la mer est partout à New York, etc., etc. Chacun le sait. En tout cas, s'il n'est pas allé, il l'a vu au cinéma ou il l'a lu dans les romans. Et donc, cette Long Island, c'est la plus longue, en plus, il se trouve, ils ne sont pas cassés la tête, la plus longue des îles qui commence là où moi j'ai commencé aussi, puisque j'en ai fait le voyage. Et je pense que si tôt, qu'un lecteur se sera jeté sur Long Island Baby, il fera tout pour aller sur les traces de Thierry Clermont, parce que c'est un itinéraire formidable, parce qu'on part, j'allais dire, du quartier juif russe, c'est-à-dire là où il y a les mafias et russes et ukrainiennes d'ailleurs,
oui.
qui cohabitent, et c'est le monde de James Gray hein, au cinéma, c'est-à-dire c'est tout ce que James Gray a fait, la plupart des films qu'il a fait se passent dans ce territoire où on est entre les Russes et les Américains, ça mélange, tout ça se mélange, et tout ça est d'une extrême âpreté, dureté, et en même temps folie, et en même temps humour, et tout ça.
C'est un endroit magique.
Et c'est le livre de Thierry Clermont, c'est à la fois le rythme est échevelé, et en même temps, chaque mot est pensé, les phrases sont ciselées. C'est un curieux mélange, et un mélange fascinant, et qui exige de la part de l'auteur un gros travail. Je suppose qu'il y a passé beaucoup de temps pour arriver à ça. L'idée de départ, c'est le narrateur. Je dis bien le narrateur, car je ne suis pas persuadé que ce ne soit pas là le côté romanesque du livre. Le livre se présente comme une sorte de livre de voyage, mais en même temps, donc, il y a ce début qui dure pas mal de pages, et où le narrateur, donc, revient à New York et revient dans cette île pour retrouver son frère avec lequel apparemment il a eu des problèmes, ils se sont disputés même assez violemment, semble-t-il aussi bien à Cuba qu'ailleurs, bon, c'est très mystérieux tout ça, et il va se marier ce frère-là, et lui revient pour ça. Donc il y a à la fois une espèce de roman presque moravien, je dirais, ou en tout cas, moi je pense plutôt à Pynchon, je dis moravien parce que brusquement ça m'est passé par l'esprit, mais c'est Pynchon, quoi, dont il parle pas, il parle de tas d'écrivains américains, il y en a deux qui manquent, c'est Pynchon et Grogan, Emmett Grogan, qui lui aussi était de Brooklyn, parce qu'en fait, tout ça c'est Brooklyn, Brooklyn c'est immense.
Oui.
Just where I'm going, and I'm going to try for the kingdom when I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, then I tell ya, things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. Sweet baby.
wish that I was born 1,000 years ago. And I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that.
Trondheim, qui lui aussi est un enfant de Brooklyn, comme je crois que c'est Delmore Schwartz à qui il a dédié le livre d'ailleurs. Mais Thierry Clermont, pardon, juste une seconde, je regarde, je crois que c'est justement un enfant aussi de. Voilà, Delmore Schwartz, qui était un poète née à Brooklyn et mort à Brooklyn très jeune. Et Matt Crogan est lui aussi mort à Brooklyn, mais lui d'une overdose dans le métro. Et le métro est rentré en gare, s'est arrêté, c'est terminé. Et on a découvert Matt Crogan affaissé sur lui-même, mort par la drogue. C'est tout cet univers-là, voilà. Ça ressuscite tout ça. On dirait presque à des moments que c'est un roman américain, comme si Clermont n'était pas français et comme si c'était des souvenirs qui lui appartenaient parce que les ayant vécu là-bas et tout ça. Donc je disais que c'est à la fois, ça fait penser à Pynchon par le côté échevelé, et à Grogan, et en même temps, c'est un récit de voyage très strict, quoi. Il y a beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. C'est très très étonnant. Moi, voilà, c'est clairement, je pensais à ça en le lisant. Je me disais, ça doit être un type qui préfère les équinoxes au solstice. Et c'est ça son livre. C'est le crayon des équinoxes, quoi. Et c'est un livre donc pour tous les apprentis voyageurs, les gens qui espèrent un jour se poser à New York et aller faire le tour, c'est sortez de Manhattan, quittez Manhattan, il y a des choses formidables, mais quittez Manhattan, prenez le métro et commencez la longue dérive vers le terminus de Long Island, qui est, la haute bourgeoisie américaine, occupe le fin fond de l'île, avec de belles propriétés et tout ça. C'est un autre style, c'est presque Scott Fitzgerald. Mais là, ce qui est la force, c'est de découvrir juste en sortant du métro, en descendant du métro, en arrivant au terminus de la ligne, parce qu'après c'est à pied ou en taxi ou en bus ou à ce qu'on veut, c'est de découvrir un monde auquel on ne s'attendait pas, voilà, c'est autre chose, c'est un autre monde, et avec quand même sur sa droite tout le temps, puisqu'on marche vers le bout, l'océan,
bien sûr, ouais, mais, effectivement, et c'est enfin, moi j'en ai des images qui me viennent, donc c'est vrai que tu me donnes envie de lire le livre de Thierry Clermont, parce que longer Brighton Beach, tout ce quartier de Coney Island et tout, c'est des souvenirs mémorables, hein. Enfin, c'est des trucs qui restent.
Ah oui, ça marque toujours, et il y a tout, parce qu'il y a l'enfance, il y a la grande roue, il y a les vendeurs de saucisses.
Oui.
Je veux dire, c'est un univers complet entre misère et réussite sociale, et ça, il a très bien saisi, mais vraiment très très bien, et c'est pour ça que c'est un livre qu'on lit... Avec envie et avec plaisir. Voilà.
C'est Long Island Baby, c'est Thierry Clermont et c'est chez Stock. Voilà pour le premier.
Voilà. Le second est tout à fait différent. D'abord, il est français. L'auteur est l'excellente Pascal Robert Diard, dont les lecteurs du monde connaissent les comptes rendus judiciaires qu'elle fait. Elle en a fait encore un cette semaine, qui était sur le grand-père qui, la nuit, vient égorger son petit-fils. Heureusement, il n'y arrive pas complètement, mais c'est une histoire sordide, de folie pure, en plein Paris aujourd'hui. Et c'est une nouvelle, la façon dont elle écrit. Elle transcende l'écriture journalistique pour atteindre... oui, la créature romanesque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors que tous les personnages sont vrais dans ce reportage, on est ailleurs. Et bien, c'est un peu la même chose. Là, ça s'appelle La Petite Menteuse. C'est une avocate qui, après avoir plaidé et perdu un procès, regagne son bureau et sa secrétaire lui dit qu'une jeune fille, une gamine pratiquement, l'attend pour la voir. Alors, ça l'ennuie beaucoup parce qu'elle n'aime pas ça, elle aime bien se préparer pour recevoir les gens, elle n'aime pas non plus qu'à la fin d'un procès qu'elle a perdu et sur lequel elle va remâcher sa déception, il y a une inconnue qui arrive. Et l'inconnue, je vais résumer ça en deux mots, parce qu'on ne peut pas le raconter, ce livre. Il est irracontable dans la mesure où on va de surprise en surprise. Alors, ne gâchons pas les surprises que pourraient avoir les lecteurs et les lectrices. Donc, La Petite Menteuse, le titre est indicatif, évidemment. La Petite Menteuse, c'est une gamine. Je ne sais plus si on dit ça aujourd'hui, d'une fille de 12, 13, 14, 15 ans, je ne sais plus ce qu'on dit, mais en tout cas, une fille dans ces eaux-là, si je puis dire, et qui vient voir donc l'avocate en lui disant voilà, j'ai été violée. Et j'ai un avocat que mon père a choisi et je ne veux pas cet avocat, je suis en appel là, et pour l'appel je voudrais que ce soit une femme, que ce soit vous. On ne passe sur les détails, ça va se faire, donc elle va devenir l'avocate. Et à partir du moment où l'avocate, donc, qui est un personnage, on va dire, qui pourrait s'identifier à Pascal Robert Diard, qui a la tête sur les épaules et qui chaque fois qu'elle se trouve face à face, présuppose ou suppose qu'il n'y a pas quelque chose qui lui échappe dans le comportement de sa cliente, je veux dire. On a donc une espèce de roman noir, comme les Anglais en écrivaient. C'est plutôt du côté des Anglais, cette fois-ci après les Américains, de Thierry Clermont. C'est le triomphe de l'intelligence. Mais je ne peux pas raconter. J'ai envie, mais je ne peux pas.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging.
c'est surprenant. Voilà, c'est une grande surprise qui m'a arrivé pour la, et l'avocate et le lecteur. Et à partir de là, c'est autre chose qui se met en place. Et c'est autre chose, c'est pour ça que je parle, je pense aux Anglais. C'est tout le tissu social de notre époque. Faut-il dire la vérité, faut-il mentir? Et en mentant, est-ce qu'on ne dit pas la vérité? Où est le vrai du faux et le faux du vrai, etc. Tout ça qui fait la, la nourriture spirituelle de l'époque, où tout se mélange et où on n'a jamais eu autant de, d'informations et toutes les informations ne sont pas à prendre, comme on sait. Et bon, voilà, etc., etc. Et là, il s'agit quand même d'une affaire très, très simple. Il s'agit du viol d'une, d'une gamine par quelqu'un qui, depuis le début, plaide l'innocence et refuse d'être reconnu coupable. C'est pour ça qu'il y a l'appel. Voilà. Donc, c'est un livre qu'on lit d'un bout à l'autre sans le lâcher. Voilà. C'est tout ce que je pourrais en dire.
Moi, je vais rajouter que c'est paru à l'Iconoclaste.
Ah oui, c'est apparu à l'Iconoclaste. Et je pensais une chose, je me disais que dans le fond, ça pourrait faire, et comme je crois qu'elle a déjà écrit un scénario pour un cinéaste que je connais et qui a été tourné, je crois que ça peut faire un, encore une fois un film. C'est, voilà. Mais c'est pas au sens négatif, parce que parfois on dit dans les mots, ça peut faire un film, genre, ouais, c'est pas vraiment de la littérature. Non, non, c'est de la littérature, mais qui, si le scénariste a du talent, ou si c'est elle qui fait la, l'adaptation, l'auteur du roman, ben peut-être qu'on peut en tirer quelque chose. Voilà. Voilà, donc ça, c'est évidemment, l'Amérique, d'une part, ça dépayse, et là, d'un seul coup, on se retrouve, parce que soit on a l'âge d'être l'avocate, soit on a l'âge d'être les parents de la fille, soit bon, on se reconnaît forcément à chaque étape du livre. Et c'est en ça que c'est passionnant aussi. Et puis vient, alors si on peut dire, le troisième de la liste, et ça, c'est le, pour moi le, une grande surprise et un grand moment de littérature. C'est un livre d'un Russe d'aujourd'hui, qui n'a même pas 30 ans, qui est acteur de sa profession, qui s'appelle Grigory Sloujitel, et c'est son premier roman. Et ce premier roman s'intitule « Les jours de Savelli ». Il y a quand même une illustration sur la couverture qui se dit que, donne une indication, on voit un chat sur un fond de ville, la nuit, je crois, parce qu'il semblerait bien que ce soit des lumières jaunes et des lumières de lampadaire qu'on voit sur l'arrière-plan. Et c'est un chat, c'est effectivement l'histoire d'un chat qui parle, qui pense, mais qui parle pas la langue des humains, évidemment, qui parle la langue des chats. Voilà. Mais pour lequel l'auteur a le bon goût de nous traduire et de nous donner la version humaine de ce que le chat pense, parle. D'ailleurs, il parle pas aux hommes, il essaie pas de parler aux hommes, il essaie pas de rentrer en relation avec, le, avec les hommes. Ce qui l'intéresse, c'est la, c'est Moscou aujourd'hui, qui, semble-t-il, a changé du tout au tout par rapport à la vision qu'on en avait à travers les romans encore des années 50, 60, 70, est devenue une ville banalement moderne, je dirais, mais en même temps où tout a changé. Donc on a du mal parfois à se repérer pour peu qu'on se rappelle de romans. Et c'est très proche, comme univers, de l'univers de Bulgakov. Or Bulgakov était un écrivain qui mélangeait le fantastique et le réaliste.
Oui, 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 tout à fait.
Comme dans Cœur de chien, par exemple, que j'ai publié au Champ Libre à l'époque. C'est un livre qui dit autre chose que ce qui est écrit et que ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'il y a un texte souterrain, il y a un texte mystérieux. Et ce texte mystérieux, c'est l'envers du décor, comme on dirait. C'est-à-dire que à travers les aventures de ce chat Savelli, aventures et mésaventures d'ailleurs, on découvre la Russie d'aujourd'hui, évidemment. Poutine n'est pas loin, les anciens communistes devenus milliardaires ne sont pas loin non plus. Simplement, l'astuce, comme avec Bulgakov, mais ça n'a pas marché pour Bulgakov puisqu'il a fini liquidé en 1940, assassiné par les sbires de Staline. Là, il n'y a pas, à mon avis, mais il pourrait faire peut-être de la prison un jour, pour peu qu'il se, s'il se, sous JTL se mêlait en plus d'ajouter à son roman un ou deux commentaires sur la Russie d'aujourd'hui, il serait bon, là, il serait bon. Ça ne doit pas tromper non plus les censeurs soviétiques.
Oui, je crois.
Ça doit ça doit tromper personne, et en tout cas pas les Russes qui ont lu ça avec plaisir, et ça a été donc un grand succès en Russie, parce que au fond, on a pu enfin sourire et rire de la réalité sans prendre position, en étant simplement un lecteur d'un roman sur les aventures d'un chat, et donc des chats qui rencontrent d'autres chats, etc., etc. C'est un assez gros roman, donc on en a pour plusieurs heures à le lire et à le relire. Et ça évoque aussi d'ailleurs les chats. Il y a un romancier, je pense qu'il est chilien, Roman Diaz Eterovi, je pense qu'il est chilien, il écrit des romans noirs, et son principal personnage est un détective privé qui est en même temps un amateur de littérature, et tout ça, etc. Et le chat de ce personnage s'appelle Simon. Donc on voit bien que les chats ont un rôle dans la littérature, pas forcément simplement d'animal de compagnie, mais plutôt de découvrir, car ils sont doués de beaucoup de choses, les chats. Et bon, voilà, donc c'est un très 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 bon livre, un très très bon roman. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, et dans tout ce qui paraît aujourd'hui, sur lesquels se précipitent les jurés de tous les jurys de la planète France, ça ne tient pas la route à côté de ça. Ça, ouais. Ça aurait mérité, et ça mériterait peut-être que souterrainement ça se prépare, parce que quelqu'un finalement va. J'ai l'impression que ça restera un roman pour spécialistes, et en tout cas pour curieux, donc les curieux ne sont pas représentés, semble-t-il, dans les jurys littéraires. Voilà.
Voilà, ça s'appelle Les Jours de Savelli, c'est Grigory Sloujitel, et c'est aux éditions des Sirtes, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est très bien. Voilà.
Eh ben merci pour ces trois ouvrages qui font voyager. Et puis donc à la prochaine.
Oui, à la prochaine.
Ça va, vous êtes toujours là, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, on arrive à la fin d'Idéaux et Débats. J'espère que tous ces ouvrages évoqués vous donneront le goût de lire et d'aller chez vos libraires pour y acheter des livres qui méritent le regard. On arrive à la fin de cette émission, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'il nous serre la laisse autour du garrot.